Où en est donc l'intelligence artificielle chez Apple? Les briques sont en train de se mettre en place, des projets open source très prometteurs, en partenariat ouvert avec des universités, baptisés Keyframer, Hugs ou MGIE.
Tout le monde a dit Apple est en retard, Apple est en retard, et tout le monde s'est affolé. Mais en fait, Apple travaillait déjà là-dessus en sous-main.
En interne, Ajax GPT tournerait depuis des mois. Alors iOS 18 sera-t-il l'OS révolutionnaire que promet la rumeur? On fait le point dans la deuxième partie de cette iWeek 174. Apple Music bénéficie-t-il d'une concurrence déloyale face à Spotify soumis à une commission sur l'App Store?
Quand Apple sort un produit concurrent à un service disponible sur l'App Store, on comprend bien que Apple Music ne paye pas 15% de commission à Apple, ça n'a pas de sens. Mais les prix des deux services sont les mêmes, parce que Spotify ne peut pas se permettre de rajouter 15% à son prix lorsque c'est vendu sur l'App Store. Donc il y a un vrai problème de distorsion de concurrence potentielle.
5 ans plus tard, la Commission européenne serait sur le point de valider la plainte de la plateforme suédoise et d'infliger à Apple une amende jamais vue de 500 millions de dollars. Le journal de la semaine avec une échéance pour la deuxième génération du Vision Pro, pour l'iPhone pliant et Apple, 8 ans après le dépôt des premiers brevets, qui pourrait accélérer le mouvement autour d'un projet de bague ou d'anneau connecté face à l'imminence de la sortie du Ring chez Samsung. Et puis, le bonus exclusif pour notre communauté Patreon. Aujourd'hui, retour sur l'incroyable vidéo signée Mark Zuckerberg dans laquelle il compare son Quest 3 et le Vision Pro après l'avoir essayé.
J'ai trouvé ça étonnant, assez nouveau, plutôt courageux et puis pas mal parce que j'ai bien aimé la démarche en fait.
Entre stratégie marketing, bienveillance, mensonge et aveu, que faut-il croire du CEO de Meta? Pour en profiter, rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Bienvenue à toutes et à tous et bonjour en ce mardi 20 février 2024. Il est 17h40 à Paris. Vous êtes sur la fréquence iWeek, la semaine Apple pour l'épisode 174. Je m'appelle Benjamin Vincent et je suis aujourd'hui avec grand plaisir avec deux de mes complices de la team iWeek, Fabrice et Gilles. Salut les garçons.
Bonjour mon capitaine.
Pas mieux.
Tu faisais ta toute petite voix, Gilles. Gilles Dounès, co-auteur d'iPod Backstage chez Duno et ex-rédacteur en chef de MacPlus.net. Tu vas bien?
Ça va, je te remercie. Et toi, vous-même?
Je voulais te demander en forme, mais tu vas me dire en forme de quoi, comme d'habitude, donc j'évite de te poser la question. Je peux te la poser à toi, Fabrice Neumann, du coup?
Eh ben oui, ça va bien. Merci beaucoup.
Fabrice Neumann, consultant, mentor en technologie, toujours avec ton site.
Ouais, eh ben j'ai fait, c'est pas le même. Neumann.fr.
Eh ben dis donc.
Ça t'embouche un coin alors, hein.
Ben oui. Et j'ai vu ta photo avec ton buste en favicon.
Eh ben oui, exactement. Ben, j'ai ouvert super. Un petit blog pour publier les petits trucs auxquels je pense de temps en temps. Et voilà, donc vous pouvez y aller, c'est plus facile à retenir, Neumann.fr. Il n'y a qu'un seul N à Neumann pour ceux qui se demandent.
Ah ben c'est bien, c'est bien, on est content. C'est ouais. Une bonne nouvelle.
Ouais, merci beaucoup.
Tu étais le seul à avoir une URL avec deux traits d'union.
C'est exact.
Bon, l'événement de la semaine... En dehors de Neumann.fr, c'est cette amende dont on parle, amende infligée potentiellement par la Commission européenne dans les prochains jours à Apple. 1,5 milliard d'euros, 500 millions d'euros à cause d'Apple Music et on va dire de traitement de faveur dont Apple Music, mais sans doute d'autres services Apple bénéficient aussi. Sur l'App Store. Alors, Fabrice, je me tourne vers toi parce que justement, hein, à la une de Neumann.fr, j'ai trouvé cet article synthétique, mais bien. Je ne dirai rien du titre qui fait 3 lignes.
Non, alors c'est fait exprès, figure-toi. Parce que c'est, oui, parce que le titre...
C'est compliqué, c'est pour ça.
Pas vraiment, c'est pas plus que ça. Le titre est long parce que c'est ce qui passe sur les réseaux sociaux quand tu fais de la publication automatique. Donc du coup, c'est en fait une sorte de pré-article, si tu veux. De chapeau, comme on dirait chez nous.
Absolument. Alors je lis ton titre. Je peux
ah bah, public.
Ton intro. Apple, ouais. Bientôt condamné par l'Europe à payer 500 millions d'euros d'amende suite à une plainte de Spotify, point d'interrogation. Un aspect de concurrence déloyale sur l'App Store dont on ne parle pas assez. Alors, c'est intéressant, on va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe, et puis après on va essayer de secouer un peu les enjeux du cocotier. Fabrice, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce que la Commission européenne reprocherait à Apple pour la première fois ?
C'est tout simple en fait, c'est-à-dire qu'on sait que quand on achète, enfin tout ce qui est électronique vendu sur l'App Store, il y a une commission qui est prise par Apple de 15 à 30% au moment où on se parle, ça dépend des services, ça dépend des relations d'Apple avec les gens, et donc Spotify et les autres, s'ils vendent un abonnement sur l'App Store, Apple en prend 15%, je pense que l'accord entre Apple et Spotify c'est 15%. La problématique, c'est que quand Apple sort un produit concurrent à un service disponible sur l'App Store, on comprend bien que Apple Music ne paye pas 15% de commission à Apple, ça n'a pas de sens. Mais les prix des deux services sont les mêmes, parce que Spotify ne peut pas se permettre de rajouter 15% à son prix lorsque c'est vendu sur l'App Store. Donc il y a un vrai problème de distorsion de concurrence potentielle.
Donc ça leur coûte la commission d'Apple.
Ça leur coûte 15%. Donc c'est bien le problème. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est l'enquête qui a déclenché la plainte de Spotify en 2019. Et c'est ce qui se passe donc sur tous les produits qui sont vendus sur l'App Store lorsque Apple propose un produit directement concurrent. Voilà. Donc ouais. Apple Music c'est 10€ par mois, Spotify pour la musique c'est 10€ par mois aussi, mais si on prend un abonnement Spotify depuis l'Apple Music, donc Spotify ne touche pas les 10€. Et on pourrait se dire, et c'est donc possible, Spotify propose aussi de prendre un abonnement depuis son site web, et donc on paye toujours 10€, et ensuite on peut télécharger l'application Spotify depuis l'App Store, mais comme on a déjà un abonnement, on se connecte, et tout va bien, on a son abonnement, et Spotify n'a pas payé les 15%. Ce que reproche essentiellement Spotify, c'est que dans l'application qu'on télécharge, quand on n'a pas encore d'abonnement, c'est que Spotify n'a pas le droit d'indiquer à la personne qui a téléchargé l'application, de mettre un lien, disant « vous pouvez vous abonner en ligne là, c'est le même prix, et ensuite revenez ». Apple ne l'autorise pas.
Et ça va changer.
C'est là qu'on peut penser qu'il y a une distorsion de concurrence de ce point de vue-là. Alors ça va changer, ça a changé au Japon pour un certain nombre de catégories d'applications, ouais. Mais voilà. Donc c'était ça l'essentiel de la plainte de 2019. Et pour être bien clair sur le sujet, donc ça touche par exemple Apple Books, Apple les livres face à Kindle. Et c'est à cause de ça que depuis des temps immémoriaux, on ne peut pas acheter de livres Kindle depuis l'application Kindle sur un iPhone ou un iPad parce que Amazon refuse cet état de fait. Et donc on est en tant qu'utilisateur de Kindle sur un iPhone ou un iPad, on est moins bien servi, c'est moins pratique parce qu'il faut aller sur le site web d'Amazon pour acheter ses bouquins.
Bon, tu m'as fait un gros package. On va peut-être revenir sur chacune des composantes de l'histoire. Gilles, je t'ai vu, faire nom de la tête quand Fabrice nous expliquait le pourquoi du comment.
Mais, je veux dire, ces libertariens, ils sont très gentils. Hein, ce qui est à moi, avec la philosophie.
C'est qui les libertariens ?
Je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom d'élan. Elk,
Daniel Elk, le patron de Spotify.
Le patron de Spotify.
Et oui, et celui de l'ancien patron d'Amazon qui était Jeff Bezos. Le truc, c'est ce qui est à moi, et ce qui est à toi est négociable. Viens, on va négocier. Si possible, on va entraîner le régulateur dans la discussion et tu vas voir combien j'ai raison. Le problème, c'est que, je fais bien de parler d'Amazon, et Amazon. Et Spotify sont les leaders de leur sur leur secteur et viennent sur la boutique d'Apple qui bien gentiment leur met à disposition tout un tas d'outils pour mettre en place leur leur application avec lesquelles ils vont gagner plein de sous dedans. Et il faut en plus que l'application explique dans quelle mesure on peut acheter moins cher ailleurs. Ça va 5 minutes. Je trouve ça totalement disproportionné et ubuesque.
Mais le service que rend l'App Store, c'est pas anormal qu'Apple le fasse payer. Tu es d'accord là-dessus ?
Tout à fait. C'est mon point de vue. Et donc, je ne vois pas au nom de quoi et Spotify et Amazon, par le biais de Kindle, voudraient s'affranchir de cette redevance. Le système, c'est le mal. On a le supermarché alimentaire qui construit un centre commercial et à l'intérieur, il loue des boutiques. Ils sont propriétaires des murs et les boutiques dans lesquelles tu vas faire tes courses sont louées. Il ne veut pas les mettre à disposition gratuitement, a fortiori. Tu as le droit de vendre des produits concurrents. Hein, si Monsieur Leclerc vend des vêtements ou si toi tu veux vendre de la charcuterie toulousaine, tu as tout à fait le droit de le faire, mais il faudra que tu paies un loyer à la grande surface dans laquelle tu décides de t'installer. C'est la même logique.
Alors oui, c'est sous forme ils sont rarement concurrents, les magasins qui
la différence.
Les malls et pas les malls.
Les malls, pardon. Mais tu, il y a déjà dans les malls, tu vends des fringues alors que Monsieur Carrefour ou Monsieur Leclerc vend également des fringues dans son truc. Tu as des petits.
Oui, mais non, je suis pas sûr. Gilles, honnêtement, c'est pas les mêmes fringues. Sinon, personne s'installerait dans un mall à côté d'un supermarché qui vend la même chose.
Mais
c'est des services complémentaires. Mais
c'est pas ma faute si Monsieur Elk a choisi comme modèle économique de goinfrer des libertariens de son espèce pour faire des podcasts et a choisi également de en contrepartie de payer les artistes qui font de la musique à coups de laigne.
Fabrice, qu'il suffirait que Apple s'auto-facture les frais de l'App Store?
C'est le cas déjà.
Bon, bah alors où est le problème?
Il faut qu'il le démontre. Non, mais c'est avec tout le respect que je dois à Gilles, je trouve qu'il prend le problème à l'envers. Les gens qui sont sur l'App Store ne se plaignent pas plus que ça de la commission ou des commissions qu'ils payent à Apple, même si c'est ça qui a amené au DMA avec la prochaine ouverture des places de marché concurrentes. Mais au final, ce que ça va avoir à apporter, c'est aussi une réduction des commissions. On en reparlera plus bientôt.
Mais dans 15 jours. Hein.
Là, ce dont on parle, c'est spécifiquement, c'est pour ça que c'est très spécial, c'est vraiment spécifique. On parle spécifiquement des services concurrents qu'Apple propose directement sur son store. Et donc, quel que soit le montant de la commission, je trouve qu'il est important de se poser la question de savoir comment on peut établir et s'assurer qu'il y a une concurrence loyale entre une personne qui, justement, donc dans le centre commercial Apple, quelqu'un qui va ouvrir un magasin et qui paye un loyer, et à côté, Apple s'installe, et Apple, là, dans ce cas-là, ne paye pas de loyer parce que Apple est chez lui. Et c'est exactement, c'est ça le point central de la question. Et même si Apple se paye un loyer à lui-même, c'est bien gentil, c'est des écritures comptables, mais globalement, c'est donc le même portefeuille. Donc, je trouve qu'il y a une vraie question qui se pose, de dire « venez sur mon App Store », et puis ensuite on voit ce qui fonctionne, et tiens, la musique ça marche, je force le trait exprès, bah je vais faire pareil, mais moi ça va me coûter 15% moins cher. Donc, c'est difficile quand même d'accepter ça.
Ouais. Mais c'est pas n'importe quel clampin, c'est Monsieur Lévi-Strauss qui est le numéro 1 mondial du jean. là, en l'occurrence, chaque Spotify est le leader mondial, pays par pays, de la musique en streaming, et Amazon est le plus gros vendeur de livres numériques, et au point de mettre en danger les librairies physiques. Donc, c'est pas, en l'occurrence, c'est pas Apple, le gros méchant loup, qui terrorise les petits développeurs. Là, ce sont les numéros 1 mondiaux dans chacun de leurs secteurs.
Je rappelle quand même que pour l'histoire des bouquins, Apple a été condamné aux États-Unis pour abus de position dominante dans les livres. Ouais, c'était une condamnation stupide, je suis d'accord, mais quand même, donc c'est pas des petits non plus. Donc je trouve franchement que ton argument tient pas, quoi.
Fabrice, le fait que ça arrive maintenant, parce qu'on dit que l'amende serait confirmée dans les jours qui viennent, c'est évidemment lié à l'imminence de l'entrée en vigueur du DMA européen, ou est-ce que c'est un hasard du calendrier? Parce que tu le rappelais, c'est une plainte qui date de 2019, hein, dans le cas de Spotify. Mm-hmm. Ça fait 5 ans.
Oui, je pense qu'on voit là, malheureusement, plutôt la lenteur habituelle de la justice, et notamment aussi la complexité de ce genre de ce genre d'affaires. J'y vois plus une coïncidence. Je sais pas trop. Après, les règles politiques d'annonce pour faire pression, tu sais, ça me rappelle. On en avait parlé il y a quelques mois. C'était dans quel truc l'alors ministre du numérique Jean-Noël Barrot avait fait un truc sur Apple au moment de la sortie. Ah oui, voilà, en disant que l'iPhone 12 allait sortir du marché au moment de la sortie de l'iPhone 15. Voilà.
Le même jour.
C'était le même jour. Non, soir, là, c'était comme par hasard. Donc, c'était évidemment une petite tentative de la part du ministre de se faire mousser un petit peu. Pardon, je porte pas ce ministre dans mon cœur. Mais on peut se poser la question de savoir si c'est pas le cas un peu ici aussi, naturellement. Mais qu'on soit bien clair, si j'ai bien tout compris, cette plainte et ce potentiel résultat, puisque c'est pas encore confirmé, comme tu viens de le dire, n'est pas lié au DMA. C'est pas à cause du DMA, c'est une enquête parallèle.
En revanche, le DMA va éviter que ça continue, puisque c'est un des changements, une des conséquences du DMA, l'ouverture, les fameux liens qui étaient interdits vers des systèmes de paiement externes vont devenir une réalité. Et d'ailleurs, ça me fait penser à tous ces services. Alors, je ne parle pas des apps en elles-mêmes, mais des services dans les apps. Qui organisent leur propre système de paiement de leur côté, à des tarifs souvent inférieurs aux tarifs qu'on retrouve dans l'App Store, parce que justement, ils n'ont pas à payer la commission puisqu'ils sont sur leur propre site. Et on a le même service, rigoureusement, à un prix qui peut être effectivement 30% plus bas si on pense à aller le payer directement auprès du fournisseur.
C'est exact. Alors attention, ça veut dire que l'éditeur du service peut du coup gagner plus puisqu'il paye pas la commission à Apple. En revanche, si le service est aussi disponible sur l'App Store, l'éditeur n'a pas le droit de le vendre moins cher ailleurs. Il peut gagner plus en vendant au même prix parce que du coup il paye pas la commission à Apple, il va payer la commission juste à son processeur de paiement, mais le prix payé par l'utilisateur sera le même.
Absolument. Voilà. Gilles, c'est une conclusion temporaire ?
Oui, le problème, c'est que on est sur des rustines, on court après du point de vue réglementaire, à coup d'amende, on court après des pseudo-positions, abus de position dominante, au lieu de taper directement là où il faudrait, c'est au niveau du chiffre d'affaires, et en empêchant les grosses plateformes et les soi-disant gardiens de la porte d'abuser de constituer des trésors de guerre tels que ils sont capables d'écraser petits pauvres petits développeurs qui n'arrivent pas à émerger En l'occurrence, je vais me répéter, Spotify était le premier sur ce créneau pour contrer l'Apple Music Store. C'est un pur produit de l'industrie de la musique pour essayer de contrer la position de force sur laquelle s'était bâti Apple avec les fichiers à la demande. Ils ont voulu créer un service au robinet en favorisant Spotify, qui a un modèle économique extrêmement précaire. Et là, ils voudraient avoir une position de force chez leur concurrent. Si Spotify est le premier et que Apple n'a pas le droit d'arriver avec son propre service de musique, à ce moment-là, on a des services uniques et des monopoles. C'est exactement à l'encontre de ça que la Commission prétend œuvrer. On est dans un système kafkaïen, là.
Moi, je dirais quand même cette bonne guerre de la part de Spotify de rouspéter, parce que je me mets à leur place et je trouve ça tout à fait fondé de dire, mais il n'y a pas de raison que moi, je paye 15%, alors qu'Apple, qui est concurrent direct, n'a pas cette ligne de coût dans ses bilans. Et en même temps, Gilles, j'entends aussi ce que tu dis. C'est compliqué de faire la part en fait des choses dans un monde idéal, Fabrice. Ce serait quoi la solution qui mettrait d'accord tout le monde?
J'ai pas réfléchi plus que ça, j'avoue. Potentiellement, une partie de la solution finalement est quand même trouvée en indiquant qu'il est possible, en mettant des liens externes. On va voir ce que ça a comme. Je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, à partir du moment où tu utilises l'App Store comme moyen de paiement, que Apple ait une commission qui soit bien définie dès le début et donc les règles du jeu sont connues, très bien. Eh ben, on fait ça et puis on sait ce qui se passe. Et pour Spotify, c'est évidemment intéressant et même indispensable d'être présent sur l'App Store. Donc il y aura pas de problème avec ça. Après, on va voir aussi comment ça va se passer pour ces fameux liens externes, parce qu'on a vu déjà des exemples, c'est des liens qui font peur, c'est-à-dire que Apple va afficher un message disant « Attention, vous allez sortir du monde bien protégé de notre système de paiement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, êtes-vous sûr de vouloir y aller ?» Donc le message va être terrible et va faire peur à plein de gens, je le sais déjà, c'est évident. Donc,
ils ne vont pas se priver. Voilà.
Ils vont pas se priver. Bon, mais ça c'est le jeu et je suis pas du tout gêné par ça. Je trouve ça normal. Mais je pense que c'est une vraie bonne réponse, un début de réponse en tout cas.
Bon, en tout cas, on va attendre l'officialisation de cette amende, donc 500 millions d'euros potentiellement, amende infligée à Apple par la Commission européenne à cause du privilège dont bénéficierait Apple Music. Sur l'App Store, je vous rappelle que si vous êtes accro comme nous à l'actu Apple, vous pouvez vous abonner à notre autre podcast. C'est le compagnon d'iWeek, la semaine Apple. Son nom, iWeek Express, le premier podcast indépendant d'infos sur l'écosystème Apple à la parution imprévisible. Et oui, parce qu'elle est déclenchée par l'actualité. Pour nous trouver, c'est simple, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Et on insiste sur l'importance de vous abonner. C'est évidemment gratuit. Parce que comme les épisodes, on ne peut pas les anticiper, forcément, c'est le meilleur moyen de ne pas en rater et d'être au courant dès qu'ils arrivent. On passe au dossier de la semaine et surtout à la question de la semaine, celle qu'on se pose en tout cas. Où en est donc Apple avec l'IA? On sait que c'est un sujet, une question qui va nous emmener sans doute à minima jusqu'à la WWDC, peut-être au mois de septembre, et sans doute aussi au-delà. Si on se la pose, c'est parce qu'il n'y a pas un jour où ça ne bouge pas très fort dans le monde de l'intelligence artificielle, du côté de Meta, du côté de Google, du côté d'OpenAI, du côté de Microsoft évidemment. Donc on voulait faire le point tous ensemble sur ce qui est en train de se préparer. Le sujet, les projets sont de moins en moins secrets. C'est l'impression que j'ai, à la fois parce que Tim Cook en parle presque ouvertement. On l'a vu à la dernière conférences d'annonce des résultats trimestriels d'Apple, et puis aussi il y a des projets open source clairement signés Apple qui depuis une quinzaine de jours sont disponibles très officiellement. Le choix de l'open source, Fabrice, et donc de la visibilité.
Deux choses. Ça ressemble à au choix de l'open source, pardon, fait par Yann LeCun de Facebook, qui a fait la même chose en fait, et notamment pendant l'événement auquel tu as participé, enfin t'es allé sur place à Cannes, là, dont je me rappelle pas le nom parce qu'il est imprononçable, mais tu vas nous le rappeler naturellement bien sûr tout de suite.
C'est le YICF. WICF, le World Artificial Intelligence Cannes Festival.
Voilà. Et donc, Yann LeCun était présent, hein, il me semble. Hein, c'est le monsieur IA de Facebook, et ils ont fait le même choix de faire de l'open source, du logiciel libre. Alors, les esprits chagrins pensent que c'est puisqu'ils sont en retard, ils sont bien obligés, parce que sinon, ils n'ont pas de présence. Alors, c'est potentiellement la même chose pour Apple. Après, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas parce qu'il y a une démonstration en logiciel libre que tout ce que va faire Apple dans le domaine va être en logiciel libre non plus. Donc c'est aussi une manière d'être un peu présent, de faire un peu de pré-annonce. On est dans un modèle un peu différent de l'habitude, parce que même Tim Cook s'est fendu pour une fois d'un commentaire pendant l'appel des financiers, il me semble, où il a évoqué l'expression intelligence artificielle. Jusque là il le disait pas vraiment. Donc on sait qu'il se prépare, ça devient de plus en plus sûr, et c'est un exemple, voilà. Donc il y a au moins un exemple de ce que potentiellement les produits d'Apple seront capables de faire dans les mois qui viennent.
Alors depuis le mois de septembre, ça fait donc presque 6 mois, on parle déjà d'un modèle de langage à la Apple. Donc l'équivalent de ce que ChatGPT utilise. Ce modèle, il s'appellerait Ajax, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on peut dire qu'Ajax, c'est potentiellement le successeur de Siri, ou est-ce qu'on parle pas de la même chose?
C'est protéiforme, en fait. Il y aura du LLM des
large language Siri. Model.
Ouais. Pour améliorer Siri, qui en a bien besoin, mais ça va être de façon transversale, comme une couche à moyen niveau ou à bas niveau dans un système d'exploitation, qui va irriguer un certain nombre de services. Pour l'Apple Music, par exemple, à l'intérieur de Pages, enfin de ce qu'on appelle iWork, c'est-à-dire Pages, Keynote et Numbers, pour faire un petit peu ce que fait Microsoft avec l'intelligence artificielle pour résumer, pour créer du contenu et d'autres choses qui sont à inventer. Il y a Xcode et une version améliorée du moteur de recherche interne qui est Spotlight.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose qui est en bas niveau dans le système. Tout le monde a dit Apple est en retard, et tout le monde s'est affolé par rapport aux annonces de OpenAI. J'ai du mal, hein. Avec Microsoft, les démonstrations qui ont été faites. Mais en fait, Apple travaillait déjà là-dessus en sous-main, un petit peu comme Google qui s'est fait doubler. Il me semble que c'est un peu comparable à l'iPod. Alors, l'iPod n'explique pas tout chez Apple, mais la société a été refondée autour de ce modèle il y a 20 ans. Ils étaient doublés par les usages, un petit peu comme maintenant. Sur la musique, ils avaient pensé au départ que ce serait la vidéo qui serait levier de croissance. Or, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des technologies qui étaient internes, qui étaient pour la vidéo, comme QuickTime ou pour l'AAC, et puis le FireWire, qui normalement était pour les échanges de vidéos entre les caméras et le Mac, et c'est ce qui a fait la feature gagnante pour l'iPod. C'est un petit peu ce qu'ils sont en train de faire là avec l'intelligence artificielle interne dans la puce.
Fabrice, pour donner une idée de ce qui est en train de se passer, en septembre déjà, The Information, qui fait d'assez bonnes enquêtes en général, affirmait qu'Apple dépensait des millions de dollars par jour à entraîner ces IA. J'annonçais ce nom d'Ajax, mais en fait, le produit qui serait déjà utilisé en interne s'appellerait Ajax GPT, serait exactement un équivalent en mieux, en tout cas c'est ce qu'on disait en septembre de ChatGPT, entraîné sur plus de 200 milliards de paramètres selon les infos de The Information. Et en septembre, ils affirmaient que l'unité qui travaillait sur les IA s'appelait Foundational Models. Elle comptait environ une quinzaine, enfin 16 salariés à l'époque, dont plusieurs anciens ingénieurs de chez Google. Et elle serait dirigée par un certain John Gianandrea, qui est donc le patron de l'IA chez Apple, qui avait été embauché en 2018 à l'époque pour améliorer Siri. Voilà ce qu'on savait au mois de septembre. On n'avait pas encore de détails sur ce qui allait commencer à en sortir. Et Fabrice, ce mois de février, en fait, coïncide avec le début de l'abattage de cartes par Apple. Pas encore sur des produits grand public, mais en tout cas, ceux qui savent où les trouver peuvent commencer à regarder comment ça fonctionne.
C'est la différence. Alors pour rendre à César ce qui est à César, je voudrais rappeler que Ellie nous avait déjà aussi parlé du fait qu'il y avait un portail, un site web d'Apple qui justement parlait de l'IA en général, de la participation d'Apple dans des forums de discussion et autres conférences internationales sur le sujet. Donc ils étaient à demi cachés. Ce qui est effectivement aujourd'hui différent, c'est qu'on a donc un premier modèle pour ceux qui sont un peu programmeurs. Ils peuvent aller sur GitHub et puis aller voir le modèle MGIE qui est officiellement par Apple un moteur de manipulation d'images à l'aide de texte, et on peut commencer à imaginer ce que ça fait et aussi éventuellement donc la qualité des résultats obtenus. Ça, c'est effectivement très nouveau. On est visiblement donc dans la brique par brique, là il y a quelque chose qui se construit. Pour faire un parallèle peut-être un peu osé, c'est aussi un peu comme avec le Vision Pro et la réalité augmentée. Pendant des années, on a eu des démonstrations de réalité augmentée avec des objets qu'on pouvait regarder à travers l'écran de son iPhone ou de son iPad en posant l'objet virtuel sur une table. On savait bien que cette brique-là, c'était pas optimisé pour être utilisé sur un iPhone. On attendait impatiemment le casque parce que c'était fait pour ça. Donc voilà, donc je pense que c'est le même genre de brique qui se prépare et qu'on commence à voir. Ça, ce qui est quand même assez nouveau, c'est qu'on commence les voir, mais dans des moyens qui sont... c'est en bêta, c'est pas prêt, c'est pour voir, c'est tester. C'est
alternatif, quoi, pour l'instant.
Oui, tout à fait.
On sent qu'on est dans la communauté universitaire, scientifique, enfin voilà. C'est pas du tout des outils qui sont encore mis... à disposition du grand public. N'importe qui peut aller voir, mais je veux dire, c'est pas fait pour nos parents et nos grands-parents, quoi. Hein.
Ni même pour moi. Hein. Moi, je vais pas aller voir sur GitHub pour commencer. Non, je vais attendre que Apple nous raconte une belle histoire avec iOS 18 et qu'on verra bien ce que ça donne.
C'est ça. Alors, on va y revenir dans un instant, mais donc Ajax GPT, ça c'est l'outil qui tourne déjà en interne, qui tournerait déjà en interne, qui serait le ChatGPT sauce Apple depuis plusieurs mois et peut-être même plus longtemps. Tu as cité donc MGIE, ce projet. En fait, il y a trois autres projets. Il y a deux autres projets, donc trois en tout, en tout cas de ce qu'on sait, qui sont tous dédiés aux images. Alors c'est étonnant parce que Ajax GPT, c'est donc une intelligence artificielle qui donne des réponses sous forme de texte, hein, comme ChatGPT. Et il y a trois projets universitaires qui sont tous centrés sur la modification, la création ou l'animation d'images. Les deux autres, donc, c'est Hugs, Human Gaussian Splats, qui permet de créer en fait des avatars humains prêts à être animés à partir de clips vidéo. Et on a aussi Keyframer, qui a été mis en ligne le 8 février, donc il y a moins de deux semaines, et qui, à partir de prompts, donc de commandes texte, crée des images en 2D animées à partir de fichiers figés, qui sont des fichiers en SVG. Et Keyframer s'appuie sur GPT-4, donc sur une techno OpenAI. C'est presque surprenant.
Bah, je sais pas, à vrai dire, faut pas oublier que OpenAI, au début, c'est pour ça que ça s'appelle Open, hein, c'était censé être du logiciel libre aussi. Et puis après, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient faire du pognon avec, alors ils ont tout fermé. Donc
ça veut dire que Elon Musk vient de le rappeler d'ailleurs, hein. Je sais pas si t'as vu son tweet là, ce week-end, c'était sanglant.
Voilà, bon, bah, il fait bien de rappeler
ça. Lui, l'ancien investisseur, hein, quand même.
Voilà, et c'est rigolo parce que Elon Musk, il se retrouve en défenseur du logiciel libre, c'est assez intéressant aussi. Mais le fait est que c'est ça, hein, OpenAI, au début, avait bien promis que ce serait accessible à tout le monde, et puis c'est plus le cas. Donc, peut-être que c'est pas si étonnant que ça qu'Apple utilise aussi GPT-4 avant de pouvoir utiliser son propre moteur, justement.
Alors, on va rester sur le sujet Apple et on dira un mot avant de refermer cette page, ce dossier, de ce qui se passe dans le reste du monde de l'IA. Tu évoquais l'arrivée prochaine d'iOS 18, Fabrice. Ce sera très, très probablement en septembre, avec une préversion qui sera montrée début juin à la WWDC. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle version d'iOS ? Dont on dit que ce sera probablement la mise à jour la plus spectaculaire depuis quasiment la création de l'iPhone.
C'est en tout cas ce que dit Mark Gurman. C'est des choses qu'a déjà évoqué Gilles tout à l'heure, hein, notamment dans le cadre de l'intelligence artificielle, et notamment enfin l'arrivée d'une nouvelle version de Siri qui va comprendre un peu ce qu'on lui dit et qui sera capable de donner des réponses ou plutôt que de dire tiens, j'ai trouvé des réponses sur le web, t'as qu'à aller voir sur ton iPhone.
Siri va changer de voix.
En tout cas, va changer de cerveau. Peut-être que ce sera la même voix.
Je pense qu'il faudra une nouvelle voix pour montrer que le cerveau a changé. Hein.
C'est possible. Donc, c'est ça. Pour faire un tout petit pas en arrière, le modèle MGIE qu'on a évoqué, c'est un modèle qui permet de faire de la manipulation d'images, mais à l'aide de texte. On décrit, d'ailleurs, fais de moi le ciel plus bleu, s'il te plaît, et puis c'est tout. Donc, on peut parfaitement imaginer qu'au lieu de le taper au clavier, on va le dire à Siri. Et donc, on devrait voir par exemple des nouveaux outils de manipulation d'images dans l'application photo où on aura juste besoin de dire et peut-être dans des termes assez flous, rends-moi cette image plus jolie, et puis ensuite il se débrouille, par exemple.
À quel autre niveau du système est-ce que l'IA va infuser avec iOS 18,
Gilles? Et à quel autre niveau?
Qu'est-ce que tu attends? Au sujet de focalise, que ça infuse partout, ce que je décrivais, hein, quelque chose d'assez bas dans le niveau du système. On ne pardonnera plus à Apple la moindre mouche dans le lait, comme dit Lino Ventura dans Ne nous fâchons pas. Là, les gens risquent de se fâcher. Donc, on attend un facilitateur dans l'interface, qui doit être dans un certain nombre de services. Fabrice parlait justement de photos, mais ça peut être corriger les textes, les fautes d'orthographe. Dieu sait si la dictée sur iPhone est aléatoire du point de vue de la conjugaison. Ils vont pouvoir s'appuyer sur le contexte. Chose que faisaient très bien des logiciels spécialisés, là, la dictée sur iPhone pour dicter des SMS, etc. Je sais pas si vous l'utilisez, c'est pas, c'est pas encore ça.
C'est peut-être meilleur en anglais.
Oui, aussi. C'est plus difficile dans les langues latines, effectivement. J'ose même pas me prononcer sur les langues avec des déclinaisons. Il faudrait savoir ce que ça donne en allemand ou sur les langues nordiques.
Ouais.
Et puis également au niveau des frameworks d'Apple qui sont destinés aux développeurs. Il va falloir que cette facilité d'utilisation qui est là pour les utilisateurs, elle soit mise à disposition également pour les développeurs s'ils veulent que la plateforme reste attractive, non seulement par le nombre des utilisateurs et par la base installée, mais également avec les progrès qui ont été faits avec Swift, par exemple.
Ouais, c'est vrai que l'IA permet de gagner un temps fou pour écrire du code. Après, ça empêchera et ça n'enlèvera pas le besoin qu'un développeur passe derrière pour vérifier que tout fonctionne bien et que le résultat correspond bien à la demande. Mais c'est vrai que c'est une des pistes hyper importantes, en tout cas pour la communauté des développeurs. Pour le grand public, Fabrice, Apple est clairement sous la pression de Microsoft, parce que Microsoft a intégré l'IA non seulement à Windows, mais aussi à la suite Office. Alors, désormais, ils font payer Copilot, hein, c'est le nom de l'IA de Microsoft qui s'appuie sur OpenAI, mais on n'imaginerait pas qu'Apple ne propose pas au moins l'équivalent, et peut-être sans le faire payer, à la rentrée dans Page, Keynote, Numbers et compagnie.
Oui, alors je tique un peu quand même sur le mot grand public pour Microsoft. Ce qui est grand public chez Microsoft, c'est Copilot, donc dans le navigateur Edge et le moteur de recherche Bing, où on peut utiliser en gros ChatGPT-4 pour gratuitement. Mmh. Quand on commence à parler d'Office, et donc il faut un compte Office 365 et puis payer entre 20 et 30 dollars ou euros par mois, on n'est plus dans le domaine du grand public. Les gens, d'ailleurs, tout le monde connaît Word, mais y a tous les gens que j'ai autour de moi qui sont pas des professionnels, ils essaient de trouver des solutions alternatives justement pour pas avoir à payer ça, même pour avec un abonnement famille et tout ça. Donc c'est vrai que ça va être difficile pour Apple peut-être de le vendre.
Mais est-ce que c'est pas la chance d'Apple justement que en face Microsoft est assez vite refermer le robinet de la gratuité en disant maintenant vous passez à la caisse si vous voulez continuer à en profiter.
Je trouve que oui, c'est une stratégie, mais on est dans la même stratégie habituelle, c'est-à-dire que Apple est pas super présent dans les entreprises, et donc c'est pas une marque professionnelle dans ce domaine-là de la bureautique.
Un Mac avec de l'IA gratuite, est-ce que ça devient pas encore plus intéressant pour des entreprises aussi face à des PC qui intègre de l'IA, mais payante?
Mais oui, bien sûr. Mais là encore, je pense pas que ce soit une différence essentielle par rapport à ce qu'on vit déjà aujourd'hui. C'est-à-dire des boîtes qui...
T'es sûr?
De temps en temps, j'ai des clients comme ça qui sont sur Mac, mais qui de temps en temps rechignent quand même à payer 2000 euros pour un MacBook. Et donc, les entreprises, elles prennent un PC parce que c'est 500 balles. Et ensuite, il y a des abonnements, etc. etc. Je suis pas sûr que ça se soit dans ces termes-là, en fait, que ça se joue. En revanche, ça se joue lorsque on commence à parler d'IA beaucoup, mais beaucoup dans nos cercles quand même. Même si on parle d'IA à la radio, chez les vrais gens, l'IA, ça n'a pas encore vraiment fait d'apparition. Et donc, on n'en est pas encore là, si tu veux. Donc, il y a un moment, c'est plutôt l'absence d'IA qui fait que chez Apple, pour les gens qui s'intéressent à Apple, on dit tiens, ça manque un peu. Ensuite, quand ce sera là, ce sera normal. Ça va être toute la difficulté pour Apple de faire un événement autour de l'IA, alors qu'il n'y a quand même pas grand monde que ça intéresse en vrai.
Ouais. Eh ben tu vois, je suis pas complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression que ça devient un vrai désavantage concurrentiel. Enfin, ça pourrait devenir un vrai désavantage concurrentiel. Il faut à minima qu'Apple revienne au niveau.
Ah oui, bien sûr. Mais je suis d'accord en fait avec ça. Ouais,
je pense qu'ils ont largement les moyens de faire mieux. Et peut-être qu'en faisant moins cher, voire inclus, ce serait un argument très important. Gilles, c'est quoi ton sentiment là-dessus?
Ben, l'idée, alors déjà je suis surpris, il y aurait une taxe Microsoft, on m'aurait menti. Et puis, cette gratuité s'est faite en, chez cette parenthèse de la gratuité, s'est faite en tordant le bras de Microsoft, d'abord en rendant les mises à jour de l'OS gratuites chez Apple, et ensuite en sortant la suite iWorks, bien meilleur marché que la suite Office, et en la rendant gratuite, ensuite pour vraiment mettre en porte-à-faux Windows Microsoft, et avec Windows d'une part et Office d'autre part. Mais il y a toujours les gens qui sont scotchés, qui sont prisonniers de leur macro Excel, et c'est pour ça qu'ils vont chez Microsoft, qui reste sur de l'Office 365. Ce qui est, c'est une histoire de sparadrap que les concurrents d'Apple vont essayer de coller, de chewing-gum que les concurrents d'Apple vont essayer de coller sous la semelle d'Apple, en disant, vous voyez, ils n'ont pas la d'intelligence artificielle où ils sont la ramasse, comme il y avait le gimmick de la taxe Apple, ça c'était Microsoft, ou le système Apple système fermé, alors que on pouvait lire des disques durs ou des fichiers Microsoft.
Oui, Gilles, non mais t'as raison. À l'époque, ils mentaient, mais là ils ont raison.
Non, ils n'ont rien montré. Pour l'instant, ils n'ont rien montré. Mais
j'ai pas menti, monsieur. J'ai rien dit.
Fabrice l'a très bien rappelé. Il semble en avoir parlé également il y a quelques mois. C'est que de l'intelligence artificielle sous forme de machine learning, elle est là dans l'iPhone depuis l'iPhone 10 au moins. Donc il y avait les briques étaient là. Alors je peux pas dire que c'était Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Il savait parfaitement ce qu'il faisait, mais c'est une question de branding, de terminologie, un peu comme Apple est la spécialité d'appeler les choses avec ses dénominations pour en faire quelque chose de particulier, alors que c'est quelque chose qui est dans l'industrie de manière générale.
Je suis d'accord avec toi, Gilles, mais il y a peut-être un temps pour être discret, puis il y a peut-être un temps pour faire savoir davantage que c'est là et qu'ils n'ont pas à rougir.
C'est pas discret, c'est faire. On fait les choses d'une autre manière, on le dit pas,
on évite de le dire. Pas, donc c'est discret.
Si on dit pas, c'est discret. C'est pas la définition.
Comme le. Non, on évite d'aller dans la sémantique de la concurrence. Comme le. Tim Cook dit, je ne parlerai jamais de métaverse.
Non, je crois qu'il a même jamais prononcé le mot. Je crois qu'il a.
C'était Greg Joswiak qui avait dit que c'est à la question de John Gruber, que pensez-vous du métavers? Il avait répondu, c'était un mot que je ne prononcerai jamais.
Et voilà.
Donc, mais je pense qu'on n'est pas loin de dire à peu près la même chose chacun. C'est-à-dire que en fait. Ce que je vois arriver, c'est quelque chose que Apple fait depuis les débuts, me semble-t-il, en tout cas depuis très longtemps. C'est-à-dire d'arriver avec une histoire à raconter et aussi avec une panoplie d'outils qui sont suffisants, mais qui sont pas au top, parce que comme ça laisse aussi de la place aux développeurs pour
compléter. C'est ce qui se passe, c'est l'exégèse même de macOS, qui a par exemple le logiciel aperçu dont on ne parle vraiment pas assez, qui fait plein de trucs en termes de gestion des PDF, etc., etc. Et quand on veut aller un petit peu plus loin, alors on a peut-être besoin d'Acrobat Pro. C'est plein de choses comme ça, c'est Pages, Numbers, machin, etc., qui sont gratuits, qui sont très bien. Et puis malheureusement, il y a le format Word qui est la lingua franca de tout ça, donc les entreprises continuent. Enfin voilà, c'est l'application Notes, c'est l'application Rappel qui offre plein de fonctions, mais qui sont jamais au top niveau parce que c'est pas ce qu'Apple propose. Et je pense que c'est ce vers quoi on va vers pour l'intelligence artificielle, c'est qu'il va y avoir des outils, par exemple pour faire des résumés de texte, parce que l'IA est super forte pour faire ça, et que ce sera intégré ça dans l'OS, mais ouais, qu'il y a des choses qui vont manquer et que c'est ça qui va se passer avec iOS 18 et macOS 15.
Alors, je fais juste un très rapide résumé de ce qu'on attend, en tout cas des rumeurs qui concernent l'IA dans iOS 18, donc la nouvelle version de Siri, de nouvelles fonctions à base d'IA dans Apple Music pour permettre de générer automatiquement des playlists. Bon, ça existe déjà, mais c'est sans doute moins élaboré que ce qui arrive. L'intégration de l'IA dans Pages, Keynote, Numbers, pour, comme tu l'as dit, Fabrice, faire des résumés, créer du contenu et bien plus encore. Xcode, élément hyper important donc pour les développeurs, pour rendre moins fastidieux la création de lignes de blocs de code, hein, et augmenter la productivité. Une nouvelle recherche Spotlight qui sera, j'imagine, beaucoup plus puissante. On parle aussi d'une nouvelle appli ou fonction de coaching pour optimiser son bien-être, qui serait intégré à la fois à l'application santé et qui s'appuierait sur l'Apple Watch. Et puis enfin, des fonctions d'IA dans Messages pour à la fois répondre à votre place, deviner la suite du message et donc vous éviter de le taper, et résumer de longs messages qui pourraient arriver. Voilà vers quoi on se dirige. Alors tu évoquais les résumés qui seraient gérés par le système. Fabrice, on a appris il y a quelques heures que l'IA et cette fonction notamment arrivaient dans Acrobat, donc là on parle d'un produit Adobe.
Oui, tout le monde y va. Moi, je parlais du fait que l'IA était très forte pour faire des résumés de texte, parce que je l'utilise en fait. Quand tu récupères des livres blancs, des données techniques, etc., des études qui font des fois 50 pages, etc., tu fais manger ça à l'IA et tu lui demandes c'est quoi les chiffres principaux, et il te les sort, quoi. Et c'est vraiment pratique. Et ça te permet aussi, par exemple, de déterminer si un article de 50 pages, tu vas vraiment le lire ou pas. Parce que tu demandes d'abord à l'IA ça parle de quoi et c'est quoi les trucs principaux, et puis si ça t'intéresse pas, du coup tu peux laisser passer. Donc ouais. Voilà, ça c'est très fort. Ça c'est un des outils que moi j'utilise tout le temps.
Alors à propos d'Adobe, deux dates à retenir. D'abord, à partir du 26 mars, vous avez un événement à Las Vegas qui s'appelle le Adobe Summit, qui est plus orienté marketing, mais au cours duquel Adobe devrait faire des annonces, de nouvelles annonces majeures autour de l'IA. Et puis vous connaissez sans doute Adobe Max, qui est l'événement Adobe dédié aux créatifs, qui a lieu au mois d'octobre à Los Angeles. Il y aura à nouveau cette année une édition sur une seule journée à Londres, ce sera le 23 avril, et ce qui est plutôt pas mal, c'est que les tarifs sont assez raisonnable. Si vous êtes étudiant et si vous êtes à Londres ce jour-là, ce sera 25 livres, donc en gros le prix de place de cinéma. Et si vous n'êtes pas étudiant, si vous prenez vos billets avant le 31 mars, enfin jusqu'au 31 mars, ce sera 75 livres. Et à partir du 1er avril, ce sera 125 livres. Voilà, donc Adobe Max Londres le 23 avril. On avait promis de dire un mot quand même de ce qui se passe dans le monde de l'IA en dehors d'Apple et d'Adobe. Ça bouge très fort du côté de Meta, ça bouge très fort aussi du côté de Google. Fabrice, puisqu'on parlait de Bard jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais Bard a changé de nom et est devenu Gemini. Gemini est arrivé en version 1.5 il y a 5 jours, Et puis, il y a eu aussi une version pro, mais là, qui n'est pas encore dispo dans l'Union européenne à cause de notre nouvelle réglementation.
Oui, oui, bah, c'est un des aspects de la réglementation, pour faire un petit commentaire là-dessus, c'est que du coup, toutes ces grandes boîtes réfléchissent à deux fois avant de venir, on ne sait jamais, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont se faire taper sur les doigts ou pas, en gros. Google ne s'endort pas dans le domaine. Ce qui me fait sourire quand même sur l'abandon du nom de Bard, c'est que c'était déjà mort, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait des démos qui se sont plantées et c'est plus personne ne pouvait avoir confiance dans le mot de Bard, en fait. Donc, ils sont obligés de le faire disparaître.
Tu l'as vécu comme ça, Gemini, moi aussi.
Bah oui, enfin voilà. Enfin, rappelez-vous, ils ont fait une démo officielle, etc. Et il y avait des erreurs factuelles dedans, de réponses données par ce qu'on peut pardonner quand on fait une démo en direct, on le pardonne pas quand c'est livré dans une belle vidéo bien fabriquée, justement à des fins de démonstration et de marketing. C'était donc c'était pas possible, c'était mort-né. Donc Gemini 1.5, bon bah en gros, ils sont très fort, ça va encore plus loin, le nombre de paramètres et ceci, cela, on verra bien ce que ça donne quand on pourra vraiment essayer tout ça.
Tu voulais ajouter quelque chose, Gilles ?
Oui, je voulais dire que tous ces gens travaillent sur des serveurs centralisés qui coûtent une blinde et qui consomment une quantité d'énergie absolument phénoménale, et que la particularité d'Apple, c'était de faire travailler son intelligence artificielle en interne sur des puces qui sont grandes comme l'ongle, avec des technologies innovantes. On en a parlé la semaine dernière, mais c'est aussi un truc qu'il faut absolument rappeler, et on est en train de toucher un plafond. Là, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de puissance, parce que la quantité d'énergie et de puissance qui va être nécessaire va être difficilement à disposition, à moins de changer de technologie de processeur.
Alors Gilles, j'abonde dans ton sens sur un point, c'est que je pense, en supposant qu'Apple a eu cette vision il y a des années, que la raison d'être des processeurs Apple Silicon, c'est aussi cette révolution de l'IA. Je le pense. Mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'Apple, comme tous les autres, achète des cartes graphiques Nvidia et à des serveurs qui consomment une blinde d'énergie et qui demandent une blinde d'eau pour le refroidissement. Il n'y a aucune raison qu'ils arrivent à faire la même chose, voire mieux, avec une puce qui tient sur un ongle. C'est pas possible.
Une partie du calcul est décentralisée sur l'appareil. Vraiment.
C'est intéressant ce que dit Gilles, c'est-à-dire que tout ce qui est entraînement de modèles demande des puissances monumentales dans des serveurs, comme tu dis, qui consomment tout un tas de trucs. Alors donc, c'est aussi toute la difficulté pour Apple d'être neutre en carbone avec tout ça, avec tout ce qu'ils font en développement du solaire et tout le reste. Mais à côté de ça, avoir des processeurs qui sont moins consommateurs, et on sait à quel point les processeurs Apple Silicon sont efficaces sur chaque appareil, c'est un point intéressant. Enfin, on sait qu'il y a pas mal de serveurs aussi qui se sont débarrassés des processeurs Intel pour passer sur des processeurs ARM qui sont moins chers et plus efficaces. Et puis même si il faut en mettre deux ou trois pour faire un équivalent en puissance de calcul avec des gros Intel, Xeon, machin chose, c'est quand même plus efficace en termes énergétiques. Donc Apple a un vrai atout quand même dans sa manche avec ça.
Alors un message important pour nous, si vous nous appréciez, si vous appréciez notre travail, soutenez-nous et rejoignez la communauté iWeek sur Patreon. Vous nous aidez ainsi à développer cette si belle aventure. La page iWeek vous attend, l'adresse patreon.com/iWeek. On adresse à nouveau un grand merci à chacune et chacun d'entre vous qui nous soutenez déjà. On a besoin que vous soyez encore plus nombreux pour vous proposer toujours plus de contenu, et on vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode, juste après le générique de fin, pour le bonus, puisqu'on va prolonger le plaisir un peu plus longtemps pour tous ceux qui parmi vous nous faites l'amitié d'être avec nous et de soutenir iWeek. On passe au journal de la semaine. Alors, on se donne une minute par news. Vous relevez le défi, les amis ? Gilles ? Fabrice ?
Allez, allons-y.
Allez. On commence par une breaking news et je me tourne vers toi, Fabrice. Quand son iPhone tombe dans l'eau, il faut en fait éviter le paquet de riz. Oui. C'est un peu l'information du jour. Et pourquoi donc ?
Et pourquoi donc ? Eh ben, alors c'est une note qu'a publiée Apple en disant le 8 janvier, j'ai raté ça. Et donc mon monde s'est effondré ce matin quand j'ai, quand j'ai eu la news. C'est-à-dire qu'en fait, le paquet de riz pour sécher son iPhone qui est tombé dans l'eau, c'est déconseillé par Apple officiellement parce qu'il peut y avoir des microparticules de cette belle graminée qui pourraient rentrer dans l'appareil par les quelques ports qui existent encore, que l'USB-C ou le Lightning, etc. Et que c'est pas forcément bon et donc c'est pas efficace. De toute façon, pour faire sécher de l'eau qui serait rentrée dans l'appareil. Donc, si vous voulez faire sécher votre appareil, il faut gentiment le prendre à la verticale, le secouer gentiment. Rappelons-le, secouez-le gentiment et au-dessus d'un coussin pour être sûr de ne pas le casser si vous le lâchez. Mais le paquet de riz, ça ne sert à rien, voire c'est contre-productif et même dangereux. Donc, n'y allez pas. Voilà, c'est intéressant parce que moi, j'étais persuadé, j'avoue, que ça servait à quelque chose. Eh bien non, ne le faites pas.
Moi, je l'ai déjà fait. Je n'ai pas forcément sauvé l'iPhone. Gilles, ça t'est déjà arrivé ?
Non.
Bon, bah écoute, ça ne t'arrivera pas donc.
Eh bien, ne commence pas.
C'est bien. Deuxième news. Alors, il y a eu un petit début de... Allez, petite panique là, autour des retours de Vision Pro. En tout cas, c'est un sujet qui a commencé à monter et puis qui s'est calmé assez vite quand Mark Gurman a sorti sa newsletter ce dimanche. Finalement, le taux de retour de Vision Pro n'a pas l'air si différent des autres produits Apple jusqu'à maintenant, Fabrice.
Non, on a vu des gens qui le rendaient. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de tir de 2 semaines. Donc voilà, on était dans la fin des 2 semaines après le lancement. Donc tous ceux qui avaient les moyens et qui ont voulu le tester l'ont fait, ou les youtubeurs et les machins, etc. Il y a des gens qui se sont aperçus que ça leur servait à rien, d'autres qui ont été un peu déçus, notamment parce que c'est un peu lourd, parce qu'ils voyaient finalement pas si bien que ça dedans, pour tout un tas de bonnes raisons. Non, je pense que c'est assez normal. Le taux est peut-être un petit peu plus élevé, mais ça s'explique à mon avis simplement, c'est-à-dire que c'est vraiment un produit nouveau, donc je pense que ça a déclenché un intérêt vraiment renouvelé pour ce qu'a sorti Apple, puisque c'était vraiment, alors qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est nouveau, et puis c'est pas tout à fait sec, pour certains en tout cas, il n'y a pas encore les applications qui vont bien, on est vraiment sur une version 1.0 voire 0.9, donc je suis pas, voilà, c'est pas un événement tant que ça, je pense qu'en fait on attend tellement de la part d'Apple, notamment en partie de la faute d'Apple qui est très arrogant pour dire que quand ils sortent un produit c'est le plus beau, le plus meilleur et le plus tout ce qu'on veut, donc c'est normal aussi qu'il y a un moment, il y a un petit retour de bâton mais vraiment minime, oui c'est nouveau mais c'est pas encore prêt pour les masses.
Bon, n'oublie pas le chrono, hein. Gilles, ouais. Il faut s'inquiéter des retours du Vision Pro ?
Non, il y a tout Fabrice l'a très bien dit. Il y a tous les gens qui ont voulu le tester, qui ont voulu se pavaner, faire des vidéos avec. C'est pas étonnant. Il fallait être vu avec. Donc les gens se sont montrés avec et ont récupéré leur 3 500 $ une fois que la vidéo a été faite. Gens déçus, je ne sais pas s'il y en a eu tant que ça.
Alors, je pense que c'est un peu réducteur, en fait, de définir tous ceux qui ont acheté le Vision Pro comme des youtubeurs, influenceurs qui ont voulu faire le buzz en se prenant en photo avec ou en se filmant avec. Il y a aussi des vrais gens, comme tu dis, Fabrice, qui ont acheté le Vision Pro. Je pense qu'ils l'ont acheté pour le garder. Et je lis notamment ce témoignage, le pseudo, c'est « I see the future ». Témoignage d'aujourd'hui. Je vous le lis en anglais. J'ai rendu le mien quand j'ai réalisé qu'en fait, il était complètement verrouillé sur un seul utilisateur. On est 5 à la maison, il y a 3 enfants, et c'est une galère pour permettre à chacun des membres de la famille de l'utiliser en tant qu'invité quand c'est leur tour. Je vais certainement pas acheter un masque pour chacun d'entre eux. Je vais pas non plus choisir mon enfant préféré. Quand ils jouent à des jeux, ils veulent jouer chacun et reprendre leur partie. Donc ils ont besoin d'avoir un accès direct à leur propre compte. Ils veulent pas jouer sur mon compte. Donc voilà, c'était génial le temps que ça a duré. Sauf qu'on s'est frité pour l'utiliser et donc donc il l'a rendu. Voilà, ça c'est un vrai témoignage de quelqu'un qui était parti pour le garder.
Ouais. Mmh. Mais c'est un vrai problème, cela dit. C'est la même chose sur l'iPad, hein, je vous rappelle. Il n'y a pas de compte de multi-utilisateur sur l'iPad, sauf dans un environnement scolaire et dans certains trucs professionnels. Parce que Apple a plutôt envie qu'on achète un iPad par personne. C'est pas raisonnable dans le cadre du Vision Pro, à cause du prix, naturellement, mais pas seulement. Parce que, en gros, on pourrait résumer au fait que, en sortant le Vision Pro, Apple s'est lancé dans la vente de vêtements. Parce qu'il faut qu'il gère des tailles. Et quand on achète un pantalon pour papa, eh ben, ça va pas au fiston qui a 5 ans. Et c'est un vrai problème. Là, Apple est rentré vraiment non seulement dans une nouvelle catégorie électronique, mais dans une nouvelle catégorie du retail, comme on dit. Et là, il va y avoir aussi tout un tas de choses à modifier chez Apple pour ça.
Je vais exploser le quota. Il y a encore un problème supplémentaire, c'est la correction optique. Il y a environ 50% de la population en du Nord, en fait, occidental, qui a des problèmes de vue qui doivent être corrigés. Et si il faut en plus des corrections optiques et gérer ces corrections optiques pour chacun des utilisateurs, c'est infaisable.
Combien de temps avant la deuxième génération de Vision Pro ? Je me souviens d'Eli, il y a 8 ou 15 jours, qui disait « Apple pourrait très bien en sortir un nouveau tous les ans ». Moi, ça me semble un peu serré comme timing. Mark Gurman est lui plutôt sur un délai de 18 mois à partir de maintenant avant une V2, donc on serait fin 2025. Et je rappelle que Ming-Chi Kuo était parti initialement sur 2027, donc dans 3 ans. Alors, on est donc entre 1 et 3 ans selon les, les prédictions. Laquelle vous semble la plus plausible ?
Je vais faire très court pour rattraper. Comme c'est le Vision Pro est un iPad qu'on met sur la tête, 18 mois comme l'iPad.
Y compris entre la V1 et la V2 ?
Oui, bien sûr. C'est un minimum, hein, c'est 18 mois ou plus. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué, tellement cher à produire, etc., qu'ils vont probablement pas s'amuser à changer quelque chose de drastique, certainement pas tous les ans, ça j'y crois pas du tout.
Donc plutôt fin 2025 pour toi. Ouais. Gilles ?
Ils seront obligés d'aller plus vite. Le 18 mois, c'est le cycle long pour un produit Apple, dans les conditions normales, et il faut reprendre les rythmes du Macintosh au début quand il est sorti, pas l'iPad, ni l'Apple Watch, ils seront obligés d'aller plus vite. On est plutôt sur quelque chose comme l'iPod ou le Macintosh. Une fois que le premier jet est sorti, il va falloir très vite revenir sur ce qui est le plus saillant, les cailloux les plus gros dans la chaussure qui empêchent de l'adoption.
Donc tu serais sur quel...
Environ 12 mois, je pense.
Donc début 2025 pour toi. Ok. On ressortira cet extrait dans une grosse année et on verra. On reparle d'iPhone pliable avec cette info à prendre avec des pincettes du média coréen Alpha Economy, selon qui Apple a finalisé les dates de vente de son iPhone pliable. Alors, on attend l'iPhone 16 pour septembre prochain. On parle de l'iPhone 18 et donc d'octobre 2026. Et il précise qu'une partie de l'équipe du Vision Pro aurait été basculée sur ce projet. Et ça m'étonne encore plus.
Ouais, moi j'ai pas grand chose à dire sur le sujet. On sait qu'Apple y travaille forcément et donc la date, on verra bien. Là, on est vraiment dans des trucs des rumeurs de rumeurs. Finalement. J'ajouterais juste que je préférerais qu'on dise pliant plutôt que pliable.
Aïe aïe. Pourquoi ?
parce que pliable, ça veut dire que c'est potentiellement on peut si on veut, et pliant, ça veut dire que c'est fait pour ça.
Merci.
C'est ça la différence sémantique.
Merci. Rien à dire de plus. Bon, vous le savez sans doute, Samsung est en train de préparer le lancement de son anneau, de sa bague connectée. Le constructeur coréen a dévoilé son nom et une première image à la fin de son événement Unpacked du 17 janvier dernier, au cours duquel les nouveaux Samsung Galaxy S24 ont été dévoilés. Apple dépose des brevets d'anneaux connectés depuis près de 10 ans. Et certains ont le sentiment que l'annonce de l'arrivée prochaine d'un anneau Samsung pourrait accélérer les plans d'Apple. Gilles, est-ce que tu vois Apple sortir une bague?
Oui, enfin des nanos, ils en ont déjà sorti. C'était l'iPod, je peux pas faire de la fixation.
Sérieusement. T'as raison.
L'iPod au doigt. C'est le nom du prochain livre signé par donc Jeunesse, vous avez entendu ici en premier.
C'est ça. Fabrice,
sérieusement.
Non, attends, je t'interromps Gilles, parce que pour ceux qui ont l'image, on a vu Fabrice lever sa main gauche. Qu'as-tu à l'auriculaire de la main gauche, Fabrice?
J'ai une bague connectée de la marque Oura, O-U-R-A.
Ben oui, la fameuse marque leader jusqu'à maintenant.
Ouais. Alors c'est rigolo parce que j'ai pas fait exprès, j'ai recommencé à la porter, ça fait 2 jours, parce que j'ai envie de remonitorer un peu mieux mon sommeil. Et c'est pour moi l'outil le plus adapté, en tout cas parmi ceux dont je dispose, parce que j'aime dormir avec l'Apple Watch, j'aime pas ça, ça me gêne, et la bague non.
C'est marrant, c'est exactement ce que je disais sur France Info ce week-end, dis donc.
Ben oui, je sais. Ben oui. J'allais dire justement que pour suivre l'actualité de la bague Samsung notamment, ne manquez pas
non, mais c'est marrant
l'intervention
parce que...
de Majin.
Non, mais parce qu'on se demande finalement, on a déjà une montre, pourquoi une bague, etc. Ça va un peu faire double emploi. En fait, la montre, souvent, on n'a pas envie de dormir avec parce que ça peut être une gêne quand on dort. Pas qu'elle soit tellement lourde, mais elle est suffisamment lourde pour qu'on ait envie de l'enlever. Alors que la bague ou l'anneau, c'est plus masculin, n'est-ce pas? C'est entre 4 et 6 grammes. Hein.
Ben oui, oui. Et puis, on en parlera tout à l'heure, mais quand les technologies le permettront, c'est quand même beaucoup plus intéressant une bague qu'une broche à porter sur le revers de la veste.
Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Bon, en tout cas, dans le cas d'Apple, c'est un média coréen qui en reparle à l'occasion justement de la sortie imminente de Ring de Samsung. J'ouvre les guillemets, hein, le pré-développement pour une commercialisation est imminent.
Voilà.
Comme pour la deuxième génération du Vision Pro.
Oui. La question, c'est l'interface et l'utilisation quand tu commences à aller au-delà d'une seule fonction.
C'est-à-dire?
Oui, c'est-à-dire que c'est difficile d'avoir un anneau qui soit totalement autonome. C'est forcément lié à une appli sur un smartphone comme la montre encore aujourd'hui. Donc,
Mais à quoi ça va servir? Mais pas une seule. Tu l'utilises pour surveiller la qualité de ton sommeil et pouvoir l'évaluer, mais est-ce qu'il y a d'autres fonctions?
Pas vraiment, c'est un suivi de santé essentiellement. Donc la qualité du sommeil, ça dépend des capteurs qui, enfin la détection de la qualité du sommeil dépend des capteurs qui sont dedans, de fréquence cardiaque, éventuellement d'oxygénation du sang, des choses comme ça. Donc on est sur un produit essentiellement de santé. Alors avec un petit test, hein, je m'empresse d'ajouter que c'est pas un produit médical. Hein, donc
ouais, bien sûr.
Ça sert pas à ça, mais c'est important de le rappeler. Ça peut donner des indications quand même, mais au-delà de la blague de l'iPod au doigt,
C'est malgré tout, enfin, il y a peut-être une évolution dans ce sens. Ce qui m'y fait penser, c'est que moi, de plus en plus, maintenant, j'écoute mes podcasts depuis la montre et pas depuis le téléphone. Donc, lorsque dans la montre, dans la bague, il y aura un peu de la mémoire et puis éventuellement une interface justement qui permettra avec des boutons, un truc tactile, des mouvements détectés par la bague justement de la main ou on peut imaginer plein de choses qui permettent de faire ça, pourquoi pas à ce moment-là. Et ouais, ça, comme tu le faisais remarquer, Benjamin, ça fait quelque chose de très léger à porter.
J'ai cru que tu allais dire j'écoute les podcasts avec ma bague. Et là, j'avoue que j'aurais eu.
Non, pas encore, mais pourquoi pas dans 5 ans.
Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai donné le prix de la bague Oura ce week-end, c'est 329€ pour le modèle de départ, je crois, hein, c'est ça?
Oui, je crois que c'est ça, oui, absolument.
Toi, t'as quel modèle du coup? Parce qu'il y en a 4.
Le modèle 3.
Modèle 3.
C'est un modèle un peu ancien.
Est-ce qu'il y a de la détection d'apnée du sommeil sur les anneaux de chez Oura ou pas encore?
Joker, je sais pas. C'est une bonne question.
Ok. Parce que c'est un des projets de Samsung qui a fait valider sa techno en Corée du Sud et ça pourrait arriver dans l'anneau Samsung donc qui va s'appeler Ring. C'était un sujet qui va vous intéresser tous les deux. On avait été très surpris qu'Apple annonce se préparer à ouvrir message à la norme, enfin au protocole RCS. Utilisé par Google notamment, on a eu une possible explication. Et pas celle qu'on imaginait. Hein.
Non, alors le blogueur John Gruber, bien connu des cercles appeliens, c'est marrant, il a en gros un peu tapé sur les doigts de tous ceux qui se sont précipités, dont nous, en tout cas moi, pour dire tiens, peut-être que l'adoption du RCS par Apple, c'est pour des histoires de régulation européenne, pour dire regardez, notre application est interopérable grâce au RCS. Et son analyse assez juste, je trouve, est de dire ça n'a rien à voir, parce que c'est pas interopérable, parce que c'est juste deux protocoles qui ne se parlent pas entre le RCS et e-message dans ce cas-là. Mais c'est juste ce serait, selon lui, dû à une pression réglementaire, non pas européenne, mais chinoise, de dire quand la Chine demande un truc, Apple et les autres font, en tout cas en rechignant un peu moins, semble-t-il. Et donc, les autorités chinoises auraient demandé, j'ai pas vérifié, de l'adoption obligatoire du RCS. Et ce serait pour ça qu'Apple s'y serait mis. Intéressant.
Ouais, absolument. Ouais, ça date de juillet 2023 en Chine. Effectivement, cette exigence chinoise.
Il y a un petit peu moins peut-être de voies de recours en Chine. Je sais pas.
Certainement.
C'est possible.
Certainement. Bon, Foxconn fête ses 50 ans. Et Jeff Williams, que certains voient déjà comme le successeur de Tim Cook à la tête d'Apple dans quelques années quand Tim sera parti. Jeff Williams était à Taïwan pour célébrer cet anniversaire. Partenaire essentiel pour Apple, Foxconn.
Oui, on va rappeler, hein, Foxconn, c'est une entreprise qui a plus d'un million de salariés, je crois, qui est spécialisée dans la fabrication de produits électroniques et donc des iPhones en particulier. Je comprends qu'Apple aille souffler les bougies. C'est effectivement un partenaire absolument essentiel, d'autant plus que Foxconn fait aussi des efforts pour aller s'installer dans d'autres pays pour que, justement, Apple ne dépendent plus uniquement de la Chine et de Taïwan pour la fabrication de ces produits, en ayant s'installé même aux États-Unis. Donc c'est normal qu'ils se déplacent.
Ouais, Gilles, là il y avait un enjeu un peu compliqué pour Apple, parce qu'il fallait à la fois être présent, ça aurait été sans doute mal vécu par Foxconn qu'Apple ne soit pas représenté, et en même temps Taïwan. Vu de Pékin, c'est chaud en ce moment, et on a aussi un peu l'impression que Jeff Williams y est allé pour éviter que Tim Cook ait besoin d'aller lui-même à Taïwan.
C'est possible, mais la position de Foxconn est un peu particulière dans la mesure où ils ont multiplié depuis longtemps les implantations d'usines en Chine continentale, plus seulement autour de la rivière des Perles, mais beaucoup de plus en plus loin à l'intérieur du pays. Et il y avait des queues immenses pour s'inscrire et venir travailler dans les usines Foxconn qui assemblaient les iPhones, parce qu'on était moins mal payés qu'ailleurs et que les conditions étaient qui étaient demandées par Apple à son assembleur étaient plus avantageuses que ce que faisait le reste de l'industrie et Samsung en particulier. Donc c'est la tournée des popotes. Ça me semble pas si inimaginable que ça que Apple bénéficie de la tolérance et de la mansuétude du gouvernement chinois en l'occurrence.
Ouais, bah j'y crois pas du tout. Et je vous rappelle qu'il y a un an, un général de l'US Air Force avait prédit que l'invasion de Taïwan par la Chine aurait lieu l'an prochain, en 2025, en profitant, on va dire, du résultat de la présidentielle américaine qui aura lieu donc au mois de novembre de cette année. Voilà, donc, c'est pas forcément un avenir très désirable, on va dire.
L'un n'empêche pas l'autre, hein. J'ai un petit peu tiré la sonnette d'alarme ici, à ce niveau-là.
Oui, absolument. Pour revenir à des données purement économiques, en Europe, Apple confirme le résultat qu'on connaissait déjà à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que c'est à nouveau le premier vendeur de smartphones en Europe. Et donc Apple repasse devant Samsung, ce qui n'était pas arrivé depuis au moins 2 ans, si je ne me trompe pas.
Oui, mais c'est parce que Samsung a chuté, lui, à moins 12%. Mmh. Apple a monté de quelques pouillèmes, 3% si ma mémoire est bonne. Et du coup, avec un jeu de chaise musicale, c'est Apple qui repasse devant. Sachant que Samsung, qui a sorti avec tambour et trompette son dernier smartphone qui soi-disant fait infiniment mieux que l'iPhone 15, et j'entendais à la radio récemment des pubs d'opérateurs qui déjà avaient sorti le carnet de bons de réduction. Il y avait 200 ou 300 euros de réduction sur le dernier Samsung, alors qu'il est sorti depuis 2 ou 3 mois. C'est le modèle économique habituel et il est peut-être pas si ils se vendent peut-être pas si bien que ça, effectivement.
Ouais, donc plus 1% pour Apple, moins 12 pour Samsung. En troisième, on a Xiaomi qui fait moins 10%, devant Motorola et Honor, avec des progressions assez spectaculaires. Motorola plus 73% et Honor plus 116%.
Bon, mais ils partent de beaucoup plus bas, c'est normal.
Oui, je suis d'accord. Mais ça fait toujours plaisir.
À eux, oui. Nous, on s'en fout un peu, mais...
Bon, un mot de cet article qui a dû te faire sourire, Fabrice, sur le fameux badge, le AI pin de Human, cette start-up californienne créée par deux anciens d'Apple. Finalement, cet article, il montre qu'ils ont tout fait à l'envers et tout fait pas comme ils auraient dû.
Oui, notamment, on va faire un lancement avec des vidéos de présentation qui faisaient plus dormir qu'autre chose, donc qui ne sont pas du tout parvenus à faire envie. Et donc là, on voit, il y a notamment une vidéo qui était sortie par de démonstrations où on voit le badge étant capable de faire quelques choses différentes avec une interface, parce qu'on rappelle, donc c'est qu'on porte ça comme une broche sur le. C'est à ça que je faisais référence tout à l'heure, hein, donc naturellement, sur le revers d'une veste. On lui parle en appuyant dessus, et puis si on veut voir quelque chose, on peut étendre la main devant, et il y a, avec un affichage laser, des informations qui s'affichent sur la main. Et donc là, on voit une interaction, notamment il y a une sorte de page d'accueil avec des icônes, et en fonction des mouvements de la main qu'on fait pivoter un peu, on peut sélectionner des icônes différentes. Voilà, c'est amusant, mais je trouve que ça ne fait que renforcer la démonstration que cet appareil essaye de remplacer, a pour but de remplacer le smartphone en faisant tout moins bien qu'un smartphone. Donc je vois pas du tout l'intérêt.
Gilles, est-ce que tu as vu cette nouvelle vidéo? C'est vrai qu'il fait davantage envie que celle qu'on avait vue au moment de l'annonce en novembre. En rappelant que la sortie effective de ce badge, hein, c'est pour le mois prochain, c'est livraison commence en mars.
Je suis désolé, je vois pas vraiment l'intérêt de ce genre de truc. Je me demande où va aller le rayon si jamais on bouge la main.
On va rappeler qu'il y a un projecteur, notamment dans le petit oui. badge carré qu'on se met. Au niveau du cœur, hein, et donc on met sa main devant soi, on ouvre les doigts, et donc la paume sert d'écran, en fait.
Est-ce qu'il y a une protection? Honnêtement, je vois pas l'intérêt.
Ouais. Tout le monde dit que le lancement est complètement raté, que c'est une catastrophe absolue, qu'ils ont sans doute un excès d'ego et de confiance en eux. Je parle des deux fondateurs, a fait que ça c'est en train de mal se passer. Ils ont d'ailleurs licencié, hein, je crois, 10% de l'équipe déjà. Est-ce qu'on se dirige, Fabrice, vers un accident industriel, comme on dit ?
Oh, c'est ce que j'allais dire, en fait. On peut assez facilement parier, en tout cas c'est mon estimation, qu'avant la fin de l'année, cette boîte sera fermée. En fait, ils auront mangé 250 millions de dollars
levé,
et peut-être hein, que ça va. Oui, mais donc ils vont les avoir mangés pour pas grand-chose. Je pense qu'il va y avoir un rachat, en fait, pour sûrement il doit y avoir un petit catalogue de brevets à récupérer, peut-être sur le projecteur laser ou des machins comme ça. Ouais. Mais personne n'en veut de ce truc. Enfin, ils ont commencé à faire des précommandes et des préventes, etc. Quand il y a des précommandes pour un iPhone, au bout de 2 heures, il y en a plus. Et là, au bout de 3 mois, il y en a toujours. Non, parce que personne n'en veut. Donc c'est raté, bien sûr, c'est raté. On verra, voilà, à moins de sortir finalement c'est pas la bonne idée la version 1.0, et que la version 2 va montrer qu'il y a quelque chose qui sort, mais ce produit là dans cet état là ne sert à rien, je suis d'accord.
Gilles, une news pour toi qui va te faire plaisir. Masters of the Air, la série sur cette escadrille de l'US Air Force basée en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Masters of the Air est devenue, le week-end de sa sortie, la série la plus regardée sur Apple TV+. Alors il n'y a pas de chiffre exact, hein, mais la source c'est Variety qui cite The Streamer. Dans les 7 jours qui ont suivi la sortie du premier épisode, l'audience d'Apple TV+ a augmenté de 65% worldwide, donc dans le monde entier. Et les chiffres dépassent ceux qu'on avait déjà connus pour des séries comme Le Morning Show, Severance ou Hijack. Bon, ça te fait plaisir, j'imagine.
Oui, parce que c'est extrêmement bien fait. C'est une série qui était promise depuis le lancement d'Apple TV+, donc il y avait un effet d'attente. Il y avait également Tom Hanks et
Steven Spielberg, ouais, à la production.
Steven Spielberg, ouais. Et donc il y avait un peu cet a priori favorable. Il y avait deux épisodes la première semaine et un certain nombre de cartes de gratuité pour 1 ou 2 mois qui ont été distribuées. Donc il y a peut-être aussi un effet de ce côté-là. Il faut voir ce que ça va donner fin mars. On n'a que 9 épisodes, je crois. Donc ouais, voilà, j'attends J'attends avec impatience la suite, d'autant que ça va crescendo. Regardez-le, vraiment, regardez-le.
Ouais. Absolument. On va devoir s'occuper de toi quand le 9e épisode sera sorti, parce que je pense que
c'est passé un moment
difficile. en tout cas, il y a un chiffre qui est un peu un nouveau palier franchi dans les budgets, dans le budget des Américains. Entre les augmentations de prix chez Hulu, donc plus 20% dans l'année, Apple TV+, plus 40%, et La Palme pour Disney, plus 75%, eh bien les Américains dépensent en moyenne 1000 dollars par an pour les services de streaming vidéo. Ça me semble énorme.
C'est des habitués de l'abonnement télévisuel, les chaînes du câble. On fait les beaux jours des grands réseaux. C'était le moyen aussi, souvent dans les petites villes, d'avoir le internet à haut débit. Ils sont habitués à payer pour avoir des contenus. Donc ça me paraît pas inimaginable.
Ouais. Moi, je me verrais pas mettre 1000 euros par an en streaming, hein.
C'est-à-dire que ça va vite en même temps, parce que tu payes entre 15 et 20 euros par mois pour chaque service, pour faire des à grands traits. Donc 15 euros,
c'est
moins
cher
ça fait,
que ça quand même, non?
Netflix, ça dépend. Si tu prends l'option avec la pub, oui, mais sinon, non, c'est 15 euros.
Mais Apple TV+, c'est moins de 10 euros par mois.
Oui, bien sûr. Ouais. Je l'ai trop forcé le trait, d'accord.
Voilà. Non, mais ça veut dire qu'il faudrait arriver à 80 euros par mois juste pour le streaming. Donc, même si je prends la part du streaming dans mon abonnement de box, par exemple, et que j'ajoute Apple TV, moi j'ai Apple TV+, Netflix, Prime Video, j'ai pas Disney, mais je suis pas du tout à.
Mais ça veut dire que tu peux aussi rajouter. Donc, alors aux États-Unis, tu as Hulu, tu as Paramount Plus que tu peux avoir ici aussi.
Ouais.
Warner, HBO Max, enfin qui s'appelle Max tout court. Non, ça c'était. Je me rappelle plus des noms.
Mais ça veut dire que les Américains sont abonnés massivement. Ils s'abonnent pas à un ou deux services, ils les ont quasiment tous. Et c'est presque culturel.
Semble-t-il.
Du coup. Ouais.
Mais combien d'Américains vont continuer à aller au cinéma dans les. Dans les théâtres, comme ils disent.
Allons compter. Mettons-nous chacun devant un cinéma pendant un an. On revient dans un an.
Terminons vite, je pars tout de suite.
Bon, ça tombe bien. C'est l'heure de nos coups de cœur et de nos cartons de la semaine. Alors moi, j'avoue, j'en ai pas. J'en aurai un la semaine prochaine. Mais je viens de le recevoir et donc je ne veux pas gâcher la petite surprise. Bon, c'est pas non plus un truc fou, mais je voudrais m'y pencher un petit peu plus. Fabrice, je sais que tu as un coup de cœur probablement.
Un petit coup de cœur, oui. Donc j'ai lancé mon petit blog et puis j'ai envie de savoir qui c'est qui vient, en tout cas de compter un peu. Et donc j'ai trouvé un petit service qui s'appelle Tinylytics. Donc ça veut dire Analytics, c'est un jeu de mots sur Analytics dans les outils d'analyse de comptage de pages, et Tiny pour tout petit. Parce que c'est un service très simple. Donc ça s'écrit T-I-N-Y-N-Y-T-I-C-S. Et ça permet très facilement d'installer sur son site web, son blog, son machin, un petit script. Et puis ça compte les gens qui vont sur la page. Ça présente ça de manière jolie. C'est tout simple. C'est hyper simple. C'est pas cher. Il y a une version gratuite. Si on veut payer, c'est pas cher. C'est beaucoup plus pratique et moins envahissant que l'outil Google Analytics, qui en plus, on rappelle, est mal vu en Europe et finalement un peu partout ailleurs. Donc, j'ai trouvé ça. Tinylytics, je trouve ça... pratique, rapide à mettre en place et pas cher. Il y a même donc une version gratuite.
Merci Fabrice. C'était l'épisode 174 d'iWeek la semaine Apple. Merci de votre fidélité. Si vous aimez notre rendez-vous hebdo, abonnez-vous aussi à notre podcast compagnon iWeek Express sur toutes les plateformes. C'est gratuit. On compte sur vos notes 5 étoiles, bien sûr, et sur vos avis sur Apple Podcast, hein, pour les deux podcasts, hein, du coup, La Semaine Apple et iWeek Express. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas l'adresse pour rejoindre la communauté et nous soutenir, patreon.com/iWeek, avec dans un instant le bonus pour nos soutiens. Merci les amis, merci Fabrice Neumann.
Merci Benjamin, merci Gilles, merci à tous.
Bonne émission, on a passé un chouette moment tous les trois. Merci Gilles.
Merci à toi et merci à Fabrice et merci à ceux qui vont nous supporter.
Exactement.
Non, nous soutenir, tu veux dire.
Oui, c'est ça. Nous soutenir et nous supporter. Ça se passe aussi sur les réseaux. Je vous rappelle qu'on est présent, je crois, quasiment partout. Hein. Threads, Blue Sky, X, ex-Twitter et Mastodon. Vous cherchez iWeek News ou iWeek.news et vous nous trouverez. Et je vous conseille d'utiliser partout, en tout cas là où c'est possible, le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple. Dans un instant, si vous êtes donc parmi nos soutiens sur Patreon, ne bougez pas, on prolonge l'épisode juste après le générique de fin, avec donc le bonus consacré cette semaine à cette vidéo assez étonnante de Mark Zuckerberg, 3 minutes 37 pendant laquelle il parle du Vision Pro après l'avoir essayé, en fait pour le comparer au masque de réalité mixte ou virtuelle de Meta. Et j'avoue que c'est un exercice qu'il a réussi pas si mal. Mais on va en reparler avec Fabrice et Gilles. Passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour l'épisode 175. Salut à tous.
Bye bye. Bye bye.